OK, on va commencer notre 14e leçon de notre série Le péché, les 10 commandements, la grâce. Alors aujourd'hui, la leçon, c'est ce qui est prescrit par la loi morale qui est écrit dans le cœur des hommes. Alors on poursuit notre étude sur les différentes facettes de la loi morale et on utilisait, comme on l'avait déjà mentionné, l'ouvrage du pasteur, auteur et théologien baptiste Dr. Ernest Kevin. Qui a écrit un livre intitulé « The Moral Law », qui est vraiment une autorité mondiale sur ce sujet-là, et qui a été le premier président de l'école biblique London Bible College. Alors, on va se baser sur le chapitre 6 de son livre, qui est intitulé « The Law Written in the Heart », autrement dit, la loi morale écrite dans le cœur des hommes. On se base sur le texte de Romains 2, versets 14 et 15, qui nous dit « Or, quand les gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. » Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est quelques observations sur la loi morale écrite dans le cœur. Alors, la familiarité avec la loi morale qui est révélée dans les consciences de tous les hommes, de partout, trouve son explication dans l'existence de la loi naturelle, ou la conscience. Ce concept de la loi morale se trouve à la base des paroles de l'apôtre Paul dans sa déclaration de Romains 2, 14 et 15 qu'on vient de lire. Alors, la règle morale de Dieu est la même partout sur la terre et dans toutes les circonstances. Il y a une unité fondamentale entre la loi morale telle que promulguée formellement dans les 10 commandements et la loi telle que trouvée dans la constitution morale de l'homme, autrement dit sa conscience. L'étendue de la connaissance de la loi naturelle est aussi grande que la race humaine elle-même. Dans les Écritures, le mot « gentil » signifie ordinairement ceux qui ne possèdent pas la loi de Moïse. Ceci est clairement la signification que Paul donne au verset déjà mentionné. Le but de Paul est de donner de la substance à l'accusation que toute l'humanité, donc à la fois les Juifs et les gentils, est dans le péché et que Dieu, qui ne fait pas exception de personne, jugera tant les uns que les autres. Autrement dit, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la loi, les 10 commandements, qu'ils n'ont jamais entendu parler, ils ont leur conscience et Dieu va les juger en fonction de la lumière qu'ils avaient. Alors, de manière à éviter que des personnes puissent penser que les actions de Dieu sont excessivement sévères envers les gentils, Paul établit la vérité que les gentils aussi ont la connaissance de la volonté de Dieu parce que la loi est écrite dans leur cœur. Par cette phrase, Paul attire l'attention sur le fait que les hommes ont une connaissance de la loi de Dieu qui est dans la raison naturelle et dans la conscience. Pour beaucoup d'hommes, la loi morale telle que promulguée publiquement et par écrit et reçue par les Juifs n'est pas connue. Cependant, Dieu les déclare coupables. Autrement dit, même un Chinois du fin fond de la Chine qui n'a jamais entendu parler du décalogue ou du 10 commandements de Dieu, s'il pêche toute sa vie, il est déclaré coupable par Dieu à cause de la loi morale qui est inscrite dans son cœur. Alors, on va regarder trois questions préliminaires concernant cette chose-là. Alors, cette constatation soulève trois questions. La première, dans quel sens les gentils font naturellement les choses de la loi? Alors, beaucoup de gentils n'ont pas reçu ou ne connaissent pas le décalogue ou les 10 commandements de Dieu. Quand ils font naturellement les choses de la loi, cela réfère aux actions externes et non internes. Quand ils tiennent compte des avertissements de leur conscience, c'est une conformité externe seulement. Une personne irrégénérée ne peut accomplir une action qui est moralement bonne, dans le sens qu'elle est faite pour la gloire de Dieu, comme fin, parce que l'homme naturel ne cherche pas cette fin d'essayer d'obtenir la gloire de Dieu. Les bonnes actions morales théologiquement parlant, doivent rencontrer deux exigences. Faire ce qui est défini par Dieu comme étant une bonne action et aussi le motif pour lequel cette même action est faite. La deuxième question, dans quel sens la loi est-elle écrite dans leur cœur? Ce serait une erreur d'identifier cette expression avec la promesse donnée à Jérémie, dans laquelle Dieu entreprend d'écrire sa loi dans le cœur de son peuple, comme on peut le lire dans Jérémie, chapitre 31, verset 33. Le Seigneur dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, verset 33 parle de quelque chose de beaucoup plus grand que la loi écrite dans le cœur des hommes en général. L'écriture de la loi de Dieu dans le cœur des hommes doit être reconnue d'une manière double. La première forme est reliée à la raison, à la connaissance et à la conscience. C'est ce qui permet aux hommes de savoir distinguer le bien du mal. La deuxième forme est reliée à la volonté et aux affections et permet à l'homme régénéré de trouver ses délices dans la loi de Dieu et la force pour l'accomplir, mais bien entendu jamais à la perfection. Autrement dit, quand on regarde la loi écrite dans le cœur de l'homme, c'est surtout relié à la raison, à la connaissance et à la conscience. Tandis que la deuxième forme, qui est celle du décalogue lui-même, c'est plus relié à la volonté et aux affections. Autrement dit, le cœur régénéré, il va vouloir accomplir les choses de Dieu, même s'il sait qu'il ne les accomplira pas à la perfection. Tandis que l'irrégénéré, lui, c'est vraiment au niveau de la conscience, il sait qu'une chose est mal, et alors il choisit de le faire ou de ne pas le faire. Alors c'est vraiment la différence, c'est au niveau, celle qui est écrite dans le cœur, c'est vraiment la raison, la connaissance et la conscience. Celle qui est écrite dans le cœur des régénérés, comme je l'ai en Jérémie 31-33, c'est vraiment plus relié à la volonté et aux affections. Autrement dit, on voudrait le faire et on aimerait le faire, mais on n'a pas toujours la pleine capacité de l'accomplir à la perfection. Mais au moins, on a la volonté. Alors, la troisième question qu'on peut se poser par rapport à la loi écrite dans le cœur, de quelle façon les gentils révèlent-ils la loi écrite dans le cœur? Autrement dit, comment ces gens-là savent que l'équivalent de la loi morale est écrite dans leur cœur? Alors, les gentils le font de deux façons. Ils le montrent extérieurement. En anglais, c'est difficile à traduire cette expression-là, « outwardly ». Je l'ai traduit extérieurement. Par la façon qu'ils font de bonnes lois et s'entendent, de vivre en les respectant, et ils le montrent intérieurement, donc « inwardly », dans le fait que leur conscience les accuse ou les défend. Autrement dit, la preuve que c'est bon que l'homme a ça dans lui, c'est que collectivement, les sociétés décident de voter des lois pour dire que voler c'est mal, tuer c'est mal, tout ce qui est écrit dans le... Alors, ça démontre « outwardly ». Les hommes démontrent extérieurement qu'ils sont d'accord avec les principes écrits dans le décalogue parce qu'ils l'inscrivent dans leur propre loi et ils acceptent de vivre collectivement sous ces mêmes lois-là. Alors ça, c'est extérieur. Mais intérieurement aussi, le fait que ta conscience t'accuse quand tu fais quelque chose de mal, ça démontre que la loi morale est à l'intérieur de toi. Comment une personne qui vole peut savoir qu'elle a volé puis que c'est mal aux yeux des autres? La preuve, quand quelqu'un vole, il s'organise toujours pour faire sa noirceur, il s'organise toujours pour pas que personne le sache. Il sait intérieurement que c'est pas bien. Même s'il n'est pas religieux, il n'est pas régénéré, il sait à cause de la loi morale qui était inscrite dans son cœur. Alors, l'évidence obtenue en répondant à ces questions pourvoit à du matériel pour défendre l'idée que la loi a encore un rôle dans la vie du croyant. S'il est vrai qu'il y a une loi de la nature écrite dans le cœur des hommes de cette façon, et qu'elle continue d'exercer son autorité même chez le croyant, comment peut-on affirmer que son aspect obligatoire, que l'aspect obligatoire de la loi peut cesser? Alors, Romains chapitre 4, verset 15 dit « Là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Autrement dit, dans le contexte de Romains, Paul voulait démontrer que même les gens qui n'avaient pas la loi du décalogue étaient quand même coupables de péché. La loi de la nature avait été donnée à Adam. Elle révélait la volonté de Dieu à son égard. Après la chute, cette loi a demeuré dans l'homme, mais déformée et obscurcie par le péché. Alors Dieu l'a révélée de nouveau et de façon publique, écrite, claire et solennelle dans les 10 commandements. Donc, la chute a amené que la conscience a été enténébrée un peu. Dieu a ramené le décalogue pour vraiment le rendre public, comme on dit, écrit. Donc, les 10 commandements sont écrits. Clair, c'est vraiment clair. Quelqu'un qui lit les 10 commandements, il n'a pas besoin, il comprend vraiment ce que ça dit. Et solennel, on se souvient que ça a été vraiment quand Dieu a présenté la loi, la montagne tremblait, les gens avaient peur, alors c'était vraiment solennel. Alors l'obligation d'obéissance qu'ont les hommes face à la loi de la nature ou de la conscience vient du fait que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Cette loi de la conscience est perpétuelle et ne peut être abrogée. Maintenant, l'autre question qu'on va observer concernant les observations sur la loi morale écrite dans le cœur, c'est celle-ci. La loi de la conscience lie-t-elle encore le chrétien? Autrement dit, nous, on a la loi, le décalogue, mais la loi de la conscience, est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer dans notre propre vie? Alors, c'est ça qu'on va chercher à répondre. Le chrétien doit-il écouter la voix de sa conscience? La réponse est que le chrétien doit s'abstenir de commettre un acte de péché parce que la prohibition est à l'intérieur de lui-même sous forme de loi de la conscience et par le fait même un commandement de Dieu. Il y a bien sûr une différence entre la loi de la conscience et celle de la loi morale, ou qu'on appelle aussi décalogue ou 10 commandements, mais elles s'accordent en ce sens qu'elles sont immuables et d'obligation perpétuelle. Le chrétien ne doit pas penser que parce qu'il a été libéré de la malédiction de la loi morale, ou des 10 commandements, qu'il est libéré de l'obéissance à la loi de sa conscience. Autrement dit, même si on est régénéré, parfois la conscience nous dit « Ah, là, t'es en train de faire mal. » Alors, la connaissance morale qui est pourvue par la loi de la conscience ou de la nature est parfois appelée « lumière de la nature » ou « raison naturelle ». Cependant, ce concept doit être utilisé avec soin, parce qu'il n'est pas difficile de voir que la raison est nécessaire à l'homme pour connaître Dieu. Cette loi de la conscience n'est pas suffisante pour tous les besoins spirituels de l'homme. La raison ou la conscience par elle-même ne peut conduire les hommes à Christ. Alors, on va regarder trois choses sur la loi de la conscience qui se doivent d'être mentionnées. La première, la loi de la nature ou de la conscience doit être regardée comme un reste ou un vestige de l'image de Dieu dans l'homme. En anglais, c'est « remnant », ou je l'ai traduit comme « vestige ». Je ne sais pas si je suis correct en disant ça. Je pense que c'est correct. Ou un reste. Alors, la loi de la nature, autrement dit, notre conscience, ça démontre que Dieu a laissé en nous son image. Donc, l'image de Dieu dans l'homme consiste premièrement dans la justice et la sainteté de l'homme avant sa chute, et aussi parce qu'elle inclut les facultés de l'homme comme créature rationnelle. Comparée à la foi, la lumière de la raison est très faible. Cependant, il reste encore de la lumière que Paul décrit comme la vérité dans Romains chapitre 1, verset 18, quand il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Alors, c'est ça que Paul parle. le retiennent à cause de leur conscience. C'est la présence de cette vérité dans l'homme qui le rend inexcusable. Alors, on continue dans Romains 1, les versets 19 et 20. Paul dit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Autrement dit, les hommes n'ont pas d'excuses pour dire « Ah, ben moi, je ne sais pas si Dieu existe ou non. » Ça le dit clairement. Dieu a fait connaître aux hommes ses perfections invisibles, sa puissance et toutes ces choses-là sont inscrites. Alors, c'est ça que ça dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Autrement dit, c'est évident. Quelqu'un qui... Il se couche le soir, l'été, puis qu'il regarde au ciel, puis qu'il voit la voie lactée, puis il voit tout ça. Mm. C'est une preuve que Dieu ne s'est pas créé tout seul. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser par rapport à trois choses qu'on se doit de faire des observations concernant cette loi de la nature-là. La deuxième, c'est que nous ne devons pas ignorer que la lumière de la nature a été obscurcie par le péché. Ce qu'on disait tantôt, après la chute, même si la loi morale était inscrite dans le cœur de l'homme, à quelque part, c'était obscurci à cause du péché. Alors, la chute dans le péché a amené l'homme à avoir une distorsion du péché. C'est ainsi qu'ils furent amenés à de faux raisonnements. Autrement dit, on l'avait, Dieu nous avait donné une conscience, mais à cause du péché, elle a été obscurcie, elle a été dénaturée, déformée, ce qui a amené les hommes à faire des folies. C'est ça que ça dit dans Romains 1, versets 21 et 22. Là, ça dit, il parle des hommes. Il dit, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Alors, 1 Corinthiens 2, 14, il nous dit aussi, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Autrement dit, l'homme qui n'est pas régénéré, quand on lui parle des choses de Christ, on lui parle du pardon des péchés, qu'on lui parle de toutes ces choses-là, pour lui, c'est de la folie. On le sait quand on cherche à convaincre quelqu'un et de l'emmener les versets, qu'est-ce qu'il nous dit? « Ah, achète-moi pas tes niaiseries. » Pour eux autres, c'est des contes du Père Noël, des affaires de même. Ils ne peuvent pas comprendre parce que le texte le dit, pour lui c'est de la folie, parce que ce sont des choses spirituelles et que c'est spirituellement qu'on peut les comprendre. Si tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas comprendre ça. La troisième observation qu'on fait concernant comment les gentils ont la loi morale à l'intérieur d'eux autres, troisième constatation qu'on se doit de faire, est la suivante. La loi de la nature ne doit pas être rejetée parce que faible ou parce que le péché a rendu l'homme ennemi de Dieu. Elle est capable d'être éliminée par la parole de Dieu. Autrement dit, la conscience, même si elle est rabougrie un peu, est-ce qu'on se doit de la rejeter pour ça? Non, pour des raisons bien simples, parce que quand Dieu révèle son Fils à nous, c'est par la raison qu'on comprend les choses. Alors la raison est demeurée là, elle est quand même utile, ce qu'on va voir. Lorsque la raison est éclairée par illumination divine, donc la régénération, elle ne doit pas être rejetée ou méprisée parce qu'elle est un instrument. Autrement dit, la raison de l'homme, elle est un instrument dans notre salut pour comprendre des choses. Si on n'aura pas la raison, on ne pourra pas comprendre. Un animal ne comprend pas. Nous, on peut comprendre à cause de notre raison, même si la raison est un peu obscurcie. La raison, ça doit être subordonnée à la vérité divine. Et ici, il y a un mot d'une importance capitale. La raison se doit d'être subordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire, être subordonnée? Ça veut dire que quand on dit une vérité divine, c'est pas la raison qui s'élève au-dessus puis dit « ben moi, je comprends pas, donc je l'accepte pas ». Subordonnée, ça veut dire que quand Dieu parle, la raison, elle se doit de se soumettre. Subordonnée, ça veut dire « sub », ça veut dire « sous ». Tu te mets sous la parole. Tu te sers de ta raison quand même, mais tu t'en sers parce que la parole a priorité sur ta raison. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes théologiques viennent de là. L'homme lit la parole dit quelque chose, et là, tu regardes ça, tu comprends pas. Ah, si je comprends pas, je l'accepte pas. C'est pas de même que ça marche. Faut pas que ça marche de même. La raison est un instrument que Dieu nous a laissé, mais elle se doit d'être absolument subordonnée à la vérité divine, sinon tu t'égares complètement. Alors, la lumière de la nature ou de la conscience, qui est comprise comme un reste ou un vestige de l'image de Dieu dans l'homme, est nécessaire dans le domaine religieux et moral. Nous pouvons le voir dans deux directions. La première est que la raison est nécessaire comme une qualification passive dans l'homme comme le sujet de la foi. Un animal ne peut exercer la foi religieuse parce qu'il n'a pas de raison. Conséquemment, c'est la raison qui rend l'homme capable passivement de recevoir la grâce, même s'il n'a pas la capacité active de l'exercer par lui-même. La deuxième, c'est que la raison est un instrument nécessaire pour la foi. Un homme ne peut croire à moins d'avoir quelque intelligence ou compréhension de ce qu'il doit croire. On voit par exemple dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Alors, c'est vraiment un verset très fort pour le créationnisme. Il dit « C'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu est le Créateur. » C'est pas par des raisonnements scientifiques, c'est par la foi. C'est très différent. Dans la version King James, j'ai voulu le mentionner parce que je trouve que c'est encore plus clair en anglais. Dans la version King James, la phrase « C'est par la foi que nous reconnaissons » est rendue « True faith, we understand ». Alors, par la foi, on comprend. Donc, c'est là que la raison, elle trouve sa place dans la vie chrétienne. Alors, la raison est donc nécessaire comme un instrument de la foi. Deux autres observations se doivent d'être faites concernant la raison. La première, c'est que la lumière de la nature est nécessaire, mais qu'elle n'est pas un juge dans les matières de foi. Voyez-vous, ici, là, quand on dit qu'il n'est pas un juge, autrement dit, est-ce que c'est ma conscience qui me dit si quelque chose est bien ou mal? Oui, mais pas la perfection. Je me souviens d'avoir eu une discussion un moment donné avec un chrétien. Il dit, ma conscience ne me reproche rien. Ben, j'ai dit, c'est pas ta conscience qui est ton patron. C'est la parole de Dieu. Alors, des fois, ça peut arriver qu'il y a quelque chose que tu ne perçois pas vraiment comme mal, mais c'est pas elle qui va être le juge ultime. C'est la parole. Il faut que tu te soumettes à la parole. Là, c'est ça, là. Alors, elle est un instrument, mais elle n'est jamais le juge des choses spirituelles, parce qu'elle est, jusqu'à un certain point, déformée. Alors, le rationalisme exalte la raison de façon trop importante lorsqu'elle la considère comme un juge et non seulement un instrument. La preuve, c'est qu'elle peut rejeter les grands mystères de l'Évangile. Par exemple, la raison peut refuser des notions qu'elle ne comprend pas, comme la Trinité, la preuve, les Unitariens. Pourquoi ils rejettent la Trinité? Parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Donc, que je ne peux pas le comprendre, donc c'est pas bon. Donc, leur raison n'est pas subordonnée à la vérité. À quelque part, ça les entraîne dans des graves. Autre chose, la prédestination. On le sait. Pourquoi? Parce que les gens ne réussissent pas à soumettre leur compréhension à la parole de Dieu par la foi. Ils veulent que ce soit l'intelligence qui comprenne. Si je ne comprends pas, je ne l'accepte pas. Alors, c'est ça. Et l'élection et bien d'autres choses. Alors, dans les Écritures, il faut absolument que tu aies raison. Oui, elle est un instrument, mais elle ne doit pas être le juge. C'est ça la différence. Entre la raison comme instrument et la raison comme juge, il y a une différence énorme. Alors, la loi écrite dans le cœur de l'homme se doit d'être distinguée des commandements de ce qu'il est convenu d'appeler la loi positive. Cette loi est inscrite dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Par exemple, on lit dans Genèse 2, versets 16 et 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si l'homme avait déjà la nature morale à l'intérieur de son être, pourquoi Dieu lui a donné un commandement s'ils avaient déjà, alors c'est ça que l'auteur cherche à déterminer, pourquoi si on avait déjà, si Adam avait déjà la loi morale à l'intérieur de lui, pourquoi Dieu lui a donné ce qu'eux appellent ici la loi positive, autrement dit, il lui a donné un commandement, tu peux manger de tout ce qu'il y a là, mais l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger. Et c'est à partir de là qu'il y a eu. Alors le livre de la Genèse nous montre qu'en addition à la loi morale écrite dans le cœur, Dieu avait aussi donné la loi positive qui mettait Adam en obéissance à l'épreuve, mettait l'obéissance d'Adam à l'épreuve. La loi positive avait pour but de donner une frontière et une limite à Adam de manière à ce qu'il sache que le bien était ce qu'il permettait et que le mal était ce qu'il défendait. Pourquoi Dieu a-t-il donné à l'homme la loi positive par-dessus la loi naturelle qui était déjà présente dans son cœur? La première raison semble être que Dieu instituait cette loi positive pour attirer l'attention de l'homme sur le fait qu'il avait la domination légitime sur lui. Il est clair que la loi naturelle n'exprimait rien de plus que la nécessaire condition d'existence et non pas un véritable acte de la volonté. Autrement dit, il l'avait à l'intérieur de lui, mais l'acte de la volonté, c'était vraiment face à un commandement que Dieu te donne, tu fais quoi avec? Là, c'est la volonté qui est engagée. Alors, certains hommes, par exemple, peuvent s'abstenir de certains péchés, non parce qu'ils sont défendus par Dieu, mais parce que leur raison naturelle les rejette. Autrement dit, certaines personnes ne voleront pas parce que Dieu commande de ne pas voler, parce que pour eux autres, voler, c'est pas bien, puis c'est leur propre moralité. Alors, les principes en cause sont très différents. Dieu a voulu mettre Adam à l'épreuve par la loi positive, de manière à établir et à démontrer clairement sa domination sur lui. Quand tu donnes un ordre à quelqu'un, c'est parce que tu es en train de démontrer « j'ai le pouvoir de te dire des choses et tu te dois de m'obéir ». Alors, la désobéissance à la loi positive n'est pas moins haineuse que la désobéissance à la loi morale écrite dans le cœur. Cette désobéissance démontre de façon extérieure et visible qu'il ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est pour cette raison que Paul parle expressément du péché d'Adam comme celui de la désobéissance. Voyez-vous, c'est vraiment, Dieu a donné un ordre, il a désobéi, c'est ça son péché. Et son péché, non seulement le sien, mais celui de toute l'humanité. Alors, Romains 5, 19 nous donne la preuve de ça, car il dit, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, qui a désobéi? Adam. Alors, il dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, pas rien que beaucoup, c'est la totalité, la grande. De même, par l'obéissance d'un seul, de qui il parle de Christ, beaucoup seront rendus justes. Par cette désobéissance à la loi positive, Adam rejetait délibérément la domination de Dieu sur lui, même si l'orgueil et l'incrédulité étaient dans ce péché. C'était surtout le péché de la désobéissance. Souvent, quand on va lire Genèse 3, où on voit la chute, on va surtout mentionner l'orgueil et on va surtout mentionner l'incrédulité. Mais Paul, dans Romains 5, 19, il dit que le péché d'Adam, c'est pas que l'orgueil puis l'incrédulité n'étaient pas à l'intérieur du péché d'Adam, mais le principal péché d'Adam, c'était la désobéissance à Dieu. Tu peux manger de tout, mais tu ne peux pas manger de cet arbre-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a préparé. Alors, la loi positive donnée par Dieu à Adam avait une portée universelle parce que donnée aux représentants de la race. C'est pourquoi Paul dit que l'humanité entière a péché en Adam. Dieu avait dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Comment on peut savoir que ça s'adressait à toute l'humanité? Par le fait que non seulement, c'est pas seulement Adam qui est mort, parce que la mort a commencé avec là, mais tous les êtres humains qui sont venus après ont hérité de la mort à cause de la faute d'Adam. Alors, toute la descendance d'Adam est devenue mortelle à cause de la désobéissance du représentant de la race. OK, on est rendu aux applications. Première application, sachons écouter la voix de notre conscience pour éviter des péchés. Mais rappelons-nous que ce sont les 10 commandements de Dieu qui révèlent clairement les péchés. Là, on va regarder deux versets. Un qui nous montre les limites de la conscience et l'autre qui nous affirme que c'est la loi de Dieu qui est l'instrument par lequel Dieu se sert pour nous révéler les péchés. Alors, pour nous montrer les limites de la conscience, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, Paul dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. » Après ça, il dit « Car je ne me sens coupable de rien. » Mais regardez bien ce qu'il dit après. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Alors, il est en train de dire, c'est pas à cause que ma conscience me reproche rien que je n'ai pas du péché. C'est pas ma conscience qui est le juge. La conscience est un instrument. C'est Dieu ou la parole de Dieu, qui est, parce qu'ici, il est très important, il dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Il m'importe fort peu d'être jugé par un tribunal humain. Il m'importe fort peu, il dit, je me juge même pas moi-même. Après ça, il dit, je ne me sens coupable de rien. Mais, il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Autrement dit, c'est pas à cause que ta conscience te reproche rien que tu n'as rien à te reprocher. Parce que celui qui est le juge, pas ma conscience, c'est Dieu ou la parole de Dieu. C'est vraiment, il faut faire la différence. Et l'autre verset qui nous montre que, dans le fond, la connaissance du péché nous vient, oui, en partie par la conscience, mais qu'elle est plutôt un instrument et non pas le juge. Celle qui nous montre que c'est la loi, le décalogue, les 10 commandements qui nous révèlent notre péché, c'est vraiment Romains 3:20. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi. Autrement dit, c'est pas cause, comment j'essaierai toute ma vie d'obéir aux 10 commandements de Dieu, ça ne marchera pas. Il dit, car c'est par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Comment on sait que quelque chose est péché? Parce que le décalogue nous le dit. Et les 10 commandements sont là pour nous montrer les péchés. Donc, la révélation du péché vient par la parole. La conscience, oui, mais de façon subordonnée. Alors, deuxième application, ne méprisons pas la raison. Elle est un instrument. Mais assurons-nous qu'elle soit subordonnée aux Saintes Écritures. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré à tout jamais.
Amen. Amen.